VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pinault et Michel Joseph. Bonjour Michel.
Bonjour Nicolas.
À la une de notre émission ce vendredi matin.
Le Mali et le Nigeria se qualifient pour la finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Les détails dans le journal des sports.
Le Sénat rwandais étudie la modification de la constitution au Burkina. Le CNT limite à 2 le nombre de mandats présidentiels.
À Bambari, la branche militaire de l'Axeleka, basée à Bambari, rejette le réarmement des forces armées centrales.
Ça, c'est un projet d'achever la politique de discrimination des musulmans minorités basée à 5 kilos.
Dans le reste du monde, résultat du premier tour de la présidentielle haïtienne, contestation en vue.
C'est une constante de la réalité électorale haïtienne. Déjà, il y a une certaine agitation au niveau de la capitale, au niveau du centre-ville.
Mais tout d'abord, sur VOA Afrique, le journal.
Au Rwanda, le Sénat a commencé à examiner le projet de réforme de la Constitution qui pourrait permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017 avec la possibilité, en théorie, de diriger le pays jusqu'en 2034. Henri Francisque nous en dit plus.
L'Assemblée nationale avait adopté à l'unanimité ce projet de réforme le 29 octobre. Si le texte passe au Sénat, la Constitution remaniée sera soumise à référendum. Le projet modifie l'article 101 de la Constitution de 2003 et fait passer la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. La limite de 2 mandats présidentiels est maintenue, mais l'article 172 permet à Paul Kagame ou tout autre candidat de briguer un mandat de 7 ans en 2017 et de se représenter après pour 2 mandats de 5 ans.
C'est dans ce contexte qu'au Burkina Faso, les députés de la transition ont pris une décision radicalement différente. Ils ont adopté un amendement constitutionnel qui verrouille le nombre de mandats présidentiels. Et ce, un an après la tentative du président Blaise Compaoré de modifier la loi fondamentale pour se maintenir au pouvoir. En aucun cas, dit le texte, nul ne peut exercer plus de 2 mandats de président du Faso consécutivement ou par intermittence, indique l'amendement adopté par les membres du Conseil national de la transition.
Djibril Bassolé, poids lourd du régime de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré veut être candidat à la présidentielle à Ouagadougou. Incarcéré pour complicité dans le putsch manqué du 17 septembre, il fait savoir, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il se considère comme prisonnier politique.
Washington craint une flambée de violence après l'ultimatum du président au Burundi. Les États-Unis ont fait part hier de leur crainte de voir de nouvelles violences après l'ultimatum posé par le président Pierre Nkurunziza. Ce dernier a demandé aux insurgés de rendre leurs armes avant samedi. Un dernier appel pour tenter de mettre fin à des mois de violence. Samantha Powell, ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, fait savoir dans un communiqué que le gouvernement, les milices et les forces d'opposition qui font usage d'une rhétorique dangereuse, irresponsable, risque de déclencher davantage de violence.
C'est dans ce contexte que les autorités congolaises ont transféré à Kinshasa un journaliste burundais arrêté à Uvira le 13 octobre dernier. À l'époque, les autorités du Sud Kivu avaient justifié l'arrestation d'Egide Mwemero de la radio publique africaine pour des raisons sécuritaires, accusant la radio de propager des propos qui menacent sérieusement la paix au Burundi.
À Kinshasa, la CENI a un nouveau vice-président, Robert Bazengezi Kantitima, a été choisi par la majorité présidentielle pour occuper le poste après la démission d'André Pungwe. André Pungwe Songo avait démissionné de son poste en octobre dernier après plusieurs semaines, je cite, de pression de sa famille politique.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a mis en garde ses futurs ministres. Il leur a dit hier qu'aucun manquement à la loi ne sera toléré et surtout pas de gabegie. Les précisions d'Eddie Issango.
Respecter la loi et savoir qu'aucune impunité ne sera tolérée dans la conduite des affaires. C'est ce qu'a déclaré en substance hier le président Muhammadu Buhari avant une retraite de 2 jours avec ses futurs ministres. Le chef de l'État nigérian a dit s'attendre du gouvernement qu'il se montre économe, évite les gaspillages et préserve les ressources. Il s'agissait de la première réunion des 36 membres du futur cabinet depuis leur nomination fin septembre. Ils ont obtenu l'aval du Parlement le mois dernier et le président Buhari doit maintenant leur attribuer les portefeuilles ministériels pour constituer son premier gouvernement. Mais ce Buhari a décidé de prendre en main les secteurs pétroliers pour lutter contre la corruption endémique et la mauvaise gestion.
Le Sierra Leone s'apprête à être déclaré demain exempte de transmission du virus Ebola qui a tué des milliers de personnes dans le pays. Les précisions de Jean-Roger Billon.
Paulo Conte, chef du Centre national de lutte contre Ebola en Sierra Leone, a déclaré qu'il n'y aura pas de célébration pour la fin de l'épidémie, mais une simple déclaration officielle de l'OMS à Freetown en présence du président Ernest Bai Koroma. L'euphorie est tempérée par les nouveaux cas signalés en Guinée voisine, où selon l'OMS, 382 personnes sont sous surveillance, dont 141 considérées à haut risque. Le Libéria voisin a été déclaré exempt de la fièvre hémorragique le 3 septembre après une première annonce début mai qui a été suivi le mois d'après par une réapparition du virus. Un pays est déclaré exempt lorsque deux périodes de 21 jours, la durée maximale d'incubation du virus, s'écoulent sans nouveau cas. Mais les spécialistes soulignent que le virus persiste au-delà de ces 42 jours, car le virus peut subsister parfois jusqu'à 9 mois dans certains liquides corporels comme le sperme.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, des renseignements interceptés par des agents américains et britanniques suggèrent qu'une bombe a pu être installée à bord de l'avion russe qui s'est écrasé samedi dans le Sinaï égyptien. C'est ce qu'affirme le journal britannique The Times ce vendredi.
Les dirigeants américains Barack Obama et britannique David Cameron ont ouvertement évoqué la piste d'une bombe à bord de l'avion russe. Moscou et le Caire parlent, eux, de spéculation.
Fatou Bensouda estime que les djihadistes du groupe État islamiste ont tué en Libye davantage de civils que chacune des autres factions en conflit. Mais a ajouté la procédure du tribunal pénal international, toutes sont responsables de crimes à grande échelle. Les précisions d'Arzuma Compaoré.
Intervenant hier à New York devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la patronne de la CPI a souligné que parmi les 37 attentats suicides commis cette année en Libye, 27 sont attribués au groupe État islamique. Selon Fatou Bensouda, ces djihadistes exécutent des Libyens pour des activités associées à l'espionnage, à l'homosexualité ou au militantisme. Au moins 60 personnes sont tuées chaque mois en Libye, qui est plongée dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Ces violences ont forcé près de 450 000 personnes à quitter leur domicile l'an dernier, soit le double de l'année précédente, a indiqué la procureure de la Cour pénale internationale. Elle est prête à mener une nouvelle enquête pour crimes de guerre en Libye, mais, a-t-elle dit, elle manque de financement. Deux autorités politiques se disputent le pouvoir depuis l'an dernier, l'une basée à Tripoli et l'autre, la seule reconnue internationalement basée dans l'Est.
Des experts en armes chimiques ont conclu pour la première fois que du gaz moutarde avait été utilisé lors de combats en Syrie en août. C'est ce qu'ont indiqué à l'AFP des sources au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.
À Port-au-Prince, le premier tour de la présidentielle haïtienne a livré son verdict. Jovenel Moïse, candidat soutenu par le pouvoir, et Jude Célestin, du parti de l'ex-président René Préval, seront présents au second tour de l'élection, selon le Conseil électoral provisoire. Dans la foulée de cette annonce, un partisan de l'opposition a été tué dans la capitale haïtienne.
Enfin, Facebook vaut de l'or. Le réseau social américain, fort de son 1,5 milliard d'utilisateurs actifs, a dépassé pour la première fois hier à la bourse Wall Street la barre des 300 milliards de dollars de valorisation boursière.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Ainsi s'achève le journal. Place à présent à la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Anastasie Tudiège.
En République démocratique du Congo, la production nationale de cuivre devrait être inférieure aux millions de tonnes prévues pour 2015 et baisserait encore en 2016. Le secteur, avec 35% du PIB, est le principal levier de croissance du pays. Cette baisse de production est liée à la baisse de la demande, notamment chinoise, mais aussi à des infrastructures déficientes. La chute des cours mondiaux du cuivre vient alourdir encore cette tendance. On est passé de 10 000 $ la tonne en 2011 à 5 000 $ la tonne aujourd'hui. La production nationale d'or, en revanche, s'envole. Elle est passée de près de 8,5 tonnes en 2013 à plus de 19 tonnes en 2014 et devrait atteindre les 26 tonnes en 2015. En face, au Congo-Brazzaville, le producteur d'hydrocarbures italien Eni a annoncé hier une nouvelle découverte d'hydrocarbures sur le gisement Calamarine au large du Congo-Brazzaville. Selon Eni, le gisement de Calamarine pourrait représenter un potentiel de 250 millions à 300 millions de barils équivalent pétrole, qui se dit BEP. Installé au Congo-Brazzaville depuis 1968, Eni produit environ 110 000 barils équivalent pétrole par jour. En Afrique subsaharienne, le géant italien produit actuellement environ 450 000 barils équivalent pétrole par jour.
Merci Anastasie et nous accueillons Bagas Sikoura pour la page des sports. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Nicolas.
La Coupe du Monde des moins de 17 ans, c'est fait. Le Mali et le Nigeria sont en finale.
Oui, les Maliens ont battu hier soir en demi-finale la Belgique par 3-1. Ce sont les Belges qui ont été les premiers à ouvrir le score à la 16e minute par Rigo. Les buts maliens ont été l'œuvre de Boubacar Traoré à la 22e minute, de Sidiki Maïga à la 55e minute et Sekou Koïta a gravé la mise à la 85e. Et Nicolas, c'est la première fois que les Aiglons arrivent en finale de cette catégorie.
Et ils devront affronter dimanche en finale les tenants du titre nigérian qui se sont qualifiés cette nuit au terme d'un match explosif. Les Golden Eaglets ont une nouvelle fois impressionné face à des Mexicains qui ont aussi signé une belle prestation. Les jeunes Nigérians font la différence dans les 25 dernières minutes de jeu et finissent par s'imposer 4-2. On aura donc, Bagassi, une finale 100% africaine avec le Nigeria qui sera quand même favori. Mais on souhaite bonne chance aux deux équipes. Le match pour la troisième place opposera donc la Belgique au Mexique. Allez Bagassi, football en Europe, quelques résultats de l'Europa League qui se jouait hier soir.
Naples et Dortmund de Pierre-Emerick Aubameyang se sont assurés de disputer les 16e de finale de l'Europa League dès la 4e journée en étriant respectivement les Danois de Midtjylland 5-0 et les Azerbaïdjanais de Karbala 4-0 avec un but de Pierre-Emerick Aubameyang à la 45e minute. Les Autrichiens du Rapid Vienne se sont eux aussi qualifiés grâce à leur victoire 2-1 à Plzen qui leur permet de compter 12 points en tête de leur groupe E. En revanche, l'équipe portugaise de Braga, qui avait l'opportunité elle aussi de s'assurer de participer à la phase à élimination directe de l'Europa League, a flanché à Marseille 1-0 mais reste première de son groupe F. L'OM est troisième avec 6 points derrière les Tchèques du Slovan Liberec qui en compte 7 après leur victoire contre Groningen 1-0. A noter enfin que Jurgen Klopp a remporté son premier match européen avec Liverpool 1-0 sur la pelouse du Rubin Kazan. Liverpool compte désormais 6 points, 2 de moins que Sion, tenu en échec par Bordeaux, 1-0.
Football toujours, côté justice en France, Karim Benzema et Mathieu Valbuena ne sont pas convoqués par le sélectionneur Didier Deschamps.
Oui, Karim Benzema est mis en cause et Mathieu Valbuena est victime dans une affaire de chantage à la sextape. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a donc jugé de ne pas les retenir pour les deux prochains matchs des Bleus, les 13 et 17 novembre, contre l'Angleterre et l'Allemagne.
Football encore avec le nouveau classement FIFA et petite révolution, Bagassi, l'Algérie n'est plus la première nation africaine du football mondial. Après avoir mené la danse pendant près de 18 mois, les Fennecs ont cédé leur place de numéro 1 continental à la Côte d'Ivoire. On parle cyclisme à présent. Début aujourd'hui de la 8e étape du Tour du Faso.
Oui, une 8e étape longue de 174,5 km entre Bobo Dioulasso et Dédougou. La 7e étape hier entre Bobo Dioulasso et Boromo, 85 km, soit la plus courte du Tour, a été remportée par l'Érythréen Michael Hapton, vainqueur également de la 3e et de la 5e étape. Au total, l'Éthiopie détient 4 victoires d'étape, dont la première remportée par Bereket Yeman entre Ouagadougou et Waigouya, 171 km. Au classement général, le maillot jaune reste sur les épaules du Marocain Mouhoussine Laïseni, leader depuis la 2e étape. Et Nicolas, pour terminer, quelques résultats de la NBA. le championnat de basketball nord-américain.
Oklahoma City s'incline à Chicago 98-104 grâce à 29 points de Derrick Rose, l'ancien MVP des Bulls. Les 33 points de Kevin Durant n'ont pas suffi au Thunder. Miami se reprend et bat à l'extérieur Minnesota 96-84. Et décidément, les Charlotte Hornets sont en forme. Victoire à Dallas 108-90. C'était la page des sports avec Bagassi Koura. Et bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique sur votre téléphone portable, sur Internet ou sur votre poste radio. Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. On part en Centrafrique. Dans son discours à la Nation en début de semaine, la chef de l'État de la transition, Catherine Samba-Panza, a plaidé pour le réarmement des FACA, les forces armées centrafricaines, en vue de coopérer avec les forces internationales pour le retour de la paix dans le pays. De son côté, la branche militaire du commandement de l'ex-Séléka, basée à Bambari, rejette en bloc cette initiative qui est de nature à semer le trouble dans le pays, selon elle. Écoutons le général Joseph Zoundeko, président du RPRC à Bambari, joint par Félix Yepassi Zemrou.
Oui, réarmer les forces centrafricaines FACA, ça c'est un projet d'achever la politique d'extermination des musulmans minorités basée à 5 kilos. Puisque la date de la transition est presque à la fin, le gouvernement, la présidente de transition et son gouvernement, ils veulent commettre des troubles pour avancer la date de l'élection.
Oui, mais mon général, qu'en est-il des élections justement? Est-ce que votre mouvement est prêt à garantir la sécurité sur l'ensemble du pays pendant le processus électoral?
Je ne peux pas dire oui, mais aujourd'hui, à la communauté internationale, la RCA est sous le contrôle des communautés internationales. Il y a la force Minusca et la force Sambariste qui sont là et qui appuient la transition en cours. Mais pour l'élection, nous sommes prêts pour l'élection. Élire un président démocratique, oui, même si on élit un président démocratique, il va s'asseoir sur terre armée. Nous voulons faire de la RCA une armée nationale et non une armée ethnique.
Encore une question, mon général. La dernière, les violences intercommunautaires ont pris de l'ampleur ces derniers jours à Bangui. Quel est votre sentiment face à cette situation?
Je lance un appel fort à la communauté internationale et au gouvernement même d'approcher ces deux communautés. Vraiment, le peuple centrafricain a beaucoup souffert. Ce n'est pas seulement les musulmans qui souffrent et non seulement les chrétiens qui souffrent. Tout le monde souffre. On a assez marre. Donc, je prends la communauté internationale en témoin et de prendre leurs responsabilités pour ramener la paix en Centrafrique.
Le général Joseph Zoundeko, président du RPRC, une branche de l'ex-Séléka, basée à Bambari.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
94 000 dollars, telle est la somme que l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso a débloquée pour venir en aide directement à 18 projets de développement conçus par les populations, et ce dans le cadre du Self-Help Program, ou programme d'autopromotion des communautés rurales. Zoumana Wonogo pour VOA Afrique était sur place.
C'est en toute décontraction et sous les ovations que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina a expliqué les objectifs du Self-Help Program. On écoute Linabo Mushengi.
Nous sommes fiers de signer aujourd'hui les accords de 18 projets afin d'apporter un soutien à vos efforts personnels. Comme l'a dit le président Barack Obama à Accra en 2009, l'aide n'est pas une fin en soi. Le but de l'assistance étrangère doit être de créer des conditions où elle n'est pas nécessaire.
18 petits projets, a dit le diplomate américain, mais ils constituent de grands pas pour les populations. Mariam Sabadogo explique ici ce que le moulin à grains va changer dans la vie de sa communauté.
C'est le moulin traditionnel qui existe là-bas, avec les deux cailloux, les deux pierres. Elle doit faire 12 km pour moudre les farines, et puis à pied. Et puis c'est dans une brousse vraiment dangereuse.
Bénéficiaire elle aussi d'un moulin à grains, l'association Symbiose va en faire un outil d'émancipation pour les filles déscolarisées. On écoute la présidente de l'association Symbiose, Théodora Batiga.
Ça va faire un plus parce que dans le village, là, le moulin, et ça va profiter à plus de 2500 personnes. Et en dehors de cela, actuellement, on vit une situation ici au Burkina, des grossesses indésirées et indésirables qui font que les filles sont obligées de quitter l'école. Donc, dans ce contexte-là, nous allons coopter des filles qui vont apprendre le travail de meunière pour pouvoir moudre la farine, s'occuper de la famille et d'elle-même.
Le président de l'association de développement du BAM a vu ses préoccupations liées à l'eau potable trouver solution, il le dit.
On a fait une demande pour accès à l'eau potable et un puits à grand diamètre pour avoir l'eau potable pour les populations.
Tous les bénéficiaires n'avaient qu'un seul mot à la bouche. Merci les États-Unis d'Amérique. Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La tension reste vive à Port-au-Prince où des manifestations sont prévues dans la foulée des résultats provisoires de la présidentielle du 25 octobre. Le candidat du parti au pouvoir, l'entrepreneur Jovenel Moïse, arrive en première position et devrait affronter dans un second tour son plus proche challenger, Jude Célestin. Pour une analyse de ce premier tour, Chérubin Dorcy l'a joint le politologue Gratien Jean.
Dans l'ensemble, le 25 octobre, relativement, je dis, a été bien sur l'ensemble du territoire. Et à part des cas de fraude, de bourraille d'une, de disparition ou encore de confiscation de procès-verbaux qu'on a pu considérer comme étant des allégations, mais dès qu'il y a des allégations, le Conseil électoral devrait automatiquement procéder à une investigation électorale pour vérifier et vraiment si ces allégations sont fondées. Il y a, je dirais même, une anticipation du fait que le Conseil a pu mettre sur pied une commission devant prendre en charge les doléances, les plaintes et demander au centre de tabulation d'en tenir compte. Bien avant, les procédures légales et les procédures normales, après la publication des résultats partiels, et bien les candidats qui se sont égalisés devraient bien, formuler ou encore devraient aller en contentieux électoral.
Pourtant, ce que l'on craint, c'est que la contestation ne s'exprime sur le macadam, dans les rues.
C'est une constante de la réalité électorale haïtienne. Et déjà, il y a une certaine agitation au niveau de la capitale, au niveau du centre-ville, par rapport à des rumeurs qui circulent.
Est-ce que vous croyez que le pays a fait un pas en avant sur la voie démocratique avec ces élections?
Il y avait des pas en avant. Et au niveau de la construction de la démocratie en Haïti, eh bien, la publication des résultats n'aurait pas suscité des inquiétudes et le spectre et des actes de violence comme ça a été le cas en 2006, comme ça a été le cas en 2010.
Le politologue haïtien Gratien Jean, il était joint à Port-au-Prince.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Agenda chargé la semaine prochaine pour Barack Obama. Le président américain recevra à la Maison-Blanche le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Leurs discussions porteront sur l'accord sur le nucléaire iranien, alors que la violence est quotidienne entre Israéliens et Palestiniens. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Washington se souvient encore du discours prononcé en mars dernier par M. Netanyahou devant les deux chambres réunies du Congrès, à l'invitation du président républicain de la Chambre des représentants, qui n'avait même pas daigné en informer la Maison-Blanche.
C'est un mauvais accord, un accord très mauvais, et c'est mieux de s'en passer.
Benjamin Netanyahou n'avait pas mâché ses mots en fustigeant l'accord que négociaient alors avec l'Iran, les États-Unis et leurs partenaires du P5+1. Pour certains démocrates, ces propos étaient une insulte au président Obama. Moins d'un mois après la conclusion de l'accord, M. Obama a répondu ainsi aux préoccupations de M. Netanyahou.
Un Iran doté d'armes nucléaires est beaucoup plus dangereux encore pour Israël, l'Amérique et le reste du monde qu'un Iran bénéficiant d'un allègement des sanctions.
C'est dans ce climat que M. Obama et M. Netanyahou se rencontreront pour la 13e fois le 9 novembre lors de leurs entretiens au bureau Oval. Selon Josh Earnest, porte-parole de la Maison-Blanche, ces entretiens porteront non seulement sur l'Iran, mais aussi sur la lutte contre le groupe État islamique, ainsi que sur le renforcement de la sécurité d'Israël. Sur place au Moyen-Orient, escalade de la violence après une série d'attaques contre des Israéliens par des Palestiniens armés de couteaux et plusieurs Palestiniens tués par les forces de sécurité israéliennes. Lors d'une conférence de presse en octobre, M. Obama a condamné la violence et exhorté les deux parties à tempérer leurs propos tout en reconnaissant l'impasse dans les efforts américains pour une solution des deux États.
Je crois qu'il incombera aux parties en présence et nous sommes prêts à aider de voir si elles peuvent recommencer avec des relations plus constructives. Mais entre-temps, tout le monde doit maintenant s'évertuer à éviter la mort de personnes innocentes.
Pour le professeur Daniel Shower de l'université Johns Hopkins, il y a très peu que M. Obama puisse faire, à part presser M. Netanyahu sur les implantations juives. À l'instar de nombre de ses prédécesseurs, le président Obama pourrait tenter une dernière fois, avant l'expiration de son mandat, de négocier un accord entre Israéliens et Palestiniens. Mais sans la volonté politique des intéressés, soulignent les analystes, ces efforts ne mèneront non plus à rien.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Mali, coup d'envoi aujourd'hui de la semaine culturelle de Tombouctou qui marque le retour des activités culturelles dans la région après 3 années d'interruption du fait de la crise dans le nord malien. Kadiatou Traoré s'est entretenue avec l'initiatrice de la semaine, Lala Mint, présidente des femmes du Rassemblement pour le Mali.
On a organisé une semaine culturelle à Tombouctou pour la cohésion sociale et pour la mise en œuvre de ces accords. On sait qu'aujourd'hui, c'est les partis politiques qui sont sur le terrain et c'est la voix des femmes qui marche partout. Donc nous aussi, on a fait montrer notre force avec toutes les femmes des partis politiques, la DEMA, l'IRD, tout le monde. Et on s'est donné la main à Tombouctou pour organiser cette fête.
Pourquoi les femmes des partis politiques?
On a vu qu'il faut que les femmes aussi s'impliquent, surtout les femmes du parti politique. Et pour voir comment on va faire un appel pour nous déplacer, nos réfugiés qui sont restés au-dehors de ces pays, pour montrer que nous sommes les mêmes à Tombouctou. Il n'y a pas de femmes blanches, il n'y a pas de femmes noires, il n'y a pas de femmes telles, il n'y a pas de femmes bambou. Nous sommes tous les mêmes et on se donne la main. Il faut qu'on se retourne pour travailler notre pays.
Pouvez-vous nous parler du programme de la semaine culturelle?
Le lancement 16h à la place Sankore. Une manifestation culturelle sur le dune. Le lendemain, à 9h, il y a une conférence sur la cohésion sociale, la paix, les accords. Le deuxième thème qu'on a pris, c'est femmes et élections. Il faut qu'on montre la place des femmes aussi au niveau des élections à venir. Le lendemain, il aura une rentrée politique à 16h à la place Sankore. Le lendemain, la conférence continue avec une journée de salubrité qui est organisée par des femmes des autres quartiers. Vers 16h, il y a les reboisements au niveau de Baris. Baris, c'est un petit site de Tamashek, clôturé par l'Indiné Michiri. Ça, c'est à 20h21.
Qui sont les participants?
On a invité 5 délégués par cercle au niveau des femmes, 5 au niveau des bureaux des adultes, 5 au niveau des jeunes. Ça, c'est 15 personnes par cercle. Et on a pris des activités aussi du cercle. On a pris les Hogere de Nyofunke. On a pris SBT de Gao qui a bien chanté sur la paix, sur la cohésion sociale. Et ils sont tous là actuellement à Tombouctou.
Lala Mint, présidente des femmes du Rassemblement pour le Mali, elle était jointe à Tombouctou.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà, on va se quitter avec la chanteuse Katy Perry qui chante Raw. Elle est mieux payée que sa rivale Taylor Swift. Selon le magazine américain Forbes, elle aurait gagné l'année dernière 135 millions de dollars. Ainsi va s'achever Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph. Nicolas Pineau était à la présentation. Excellente journée à tous. Avant de se quitter, saluons Idrissa Dingbe à Dadané en Côte d'Ivoire et Orézi Badra à Sikasso au Mali. Comme retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.